Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de la rédaction de GameInfo. Cette semaine, je serai en compagnie de Mordren.
Salut à tous.
Et ce sera tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on était censé être trois, mais ATH nous a lâchement abandonnés, n'est-ce pas? Donc, nous ne serons que deux. Mais écoutez, c'est pas plus mal. On vous a préparé toute une série de news cette semaine et on commencera avec un Kickstarter. On enchaînera ensuite avec la première séquence de gameplay de Middle-Earth Shadow of War. Nous évoquerons Twitch qui va bientôt lancer son service de vente de jeux. Et avec ce service, qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien, il y aura une application de bureau. Et enfin, nous terminerons avec Nintendo sur deux news. La première, c'est leur politique concernant les pixels morts. Et la seconde, c'est à propos du problème sur le Joy-Con gauche de la Nintendo Switch. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais certaines personnes ont remarqué que celui-ci était peut-être moins sensible, dirons-nous. Enfin, sa portée était moindre, qu'il marchait moins bien, etc. Et on sait maintenant pourquoi. Voilà. Donc, on va commencer, mon cher Mordren, avec un jeu au titre pas piqué des hannetons, n'est-ce pas? Du moins, en version française, puisque ce jeu s'appelle Pine. Bon, en vrai, ça se prononce Pine, je crois, n'est-ce pas?
Ouais. Hein?
Mais avoue quand même qu'en français, ce titre est assez savoureux. Et d'ailleurs, si je pouvais me permettre, puisqu'apparemment, ce jeu s'inspire de Zelda, hein, histoire de rendre hommage au dernier Zelda, s'il pouvait le sous-titrer « L'appel de la nature », je pense que la campagne marketing, ce serait parfait, là. Aucun souci. Bref, un titre qui le fera entrer dans les annales, n'est-ce pas? Alors, Pine, qu'est-ce que c'est? C'est donc, comme je le disais, un jeu qui s'inspire de Zelda, mais qui apparemment aussi a une petite touche de fable dans ses ambitions molinesques et, ouais. Et aussi dans sa direction artistique. Et apparemment, il cite aussi Middle-Earth Shadow of Mordor à cause de son système de Nemesis. Et vous allez voir pourquoi. Comme je disais, c'est un Zelda-like. Mais un Zelda-like en open world, toute la référence que je faisais tout à l'heure à Breath of the Wild. Et surtout, c'est un Zelda, si vous voulez, qui a l'ambition, on va dire, d'avoir des choses générées procéduralement qui créent une vie dans le monde, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, les bestioles que vous allez rencontrer seront des bestioles intelligentes qui bougeront en tribus. Ces tribus, en fait, pour construire des bâtiments, etc. Et là où ça commence à devenir intéressant, mais en même temps molinesque, c'est que, en fonction des interactions que vous allez avoir avec ces tribus, vous allez influencer leur évolution. C'est-à-dire que si vous êtes sympa avec eux, par exemple, et que, je sais pas, vous leur filez du matériel pour qu'ils puissent construire leur village, ou je sais pas quoi, leur civilisation va se développer. Mais par contre, si vous êtes un gros connard, etc., bon, déjà, ils se souviendront de vous, a priori. Mais surtout, leur civilisation va décroître, en fait. C'est-à-dire que si vous détruisez leurs bâtiments, etc., ils auront peut-être du mal à les reconstruire, ce genre de choses. En plus de ça, il y a tout un système de climat dynamique. C'est-à-dire que, imaginons, s'il y a une tempête qui se déroule à un endroit de la carte du jeu, les espèces qui vivent là-bas vont être obligées de migrer pour fuir la tempête, en fait. Donc, vous voyez, voilà. En plus de ça, on dit que, oui, les espèces elles pourront combattre entre elles et tout. Enfin, bref, vous l'avez compris, voilà, ça, il y a un côté très sport dans l'esprit. Et moi, bon, autant je suis attiré par ce genre de feature, si vous voulez, autant quand je vois que le Kickstarter ne demande que 100 000 euros, ouais. Bon, voilà, c'est pas beaucoup. Bon, après, ils avouent eux-mêmes que, en fait, ce Kickstarter, c'est une première étape. La prochaine étape, c'est d'avoir un éditeur. Mais bon, c'est toujours la même question. Ok, si tu trouves pas un éditeur, tu fais quoi?
Ouais.
Et surtout que, même au-delà de ça, je veux dire, c'est compliqué à faire leur truc. Alors, attention, ça a déjà été fait. Hein. Je me rappelle notamment, il y avait un jeu qui s'appelait Rhizome, c'était un MMORPG français que j'avais beaucoup aimé à l'époque, qui avait un système écologique un peu comme ça, alors pas aussi poussé, mais il y avait ce genre de base dans le système. Et c'est faisable, mais c'est faisable avec des moyens, quoi. Et 100 000 euros, tu fais pas ça, quoi, très clairement. Et du coup, la question demeure, est-ce qu'ils trouveront un éditeur pour financer leur projet?
Ouais. Moi, je t'avoue que j'aime bien l'idée que l'homme soit pas en haut de la chaîne alimentaire dans ce jeu. Je pense que ça va donner une vulnérabilité au personnage principal et donc au joueur. Et ça, je pense que c'est intéressant. Mais je te rejoins sur ton questionnement sur parce qu'à la fin, ils concluent quand même leur vidéo de présentation en disant on a besoin d'un peu de soutien, mais aussi de vos retours. Et au final, en fait, on t'as pas l'impression que l'argent, ça soit une nécessité absolue pour réaliser le projet. Et j'ai peut-être dû manquer une étape. Enfin, Kickstarter, pour moi, c'est censé être là pour les devs qui ont besoin de thunes pour réaliser un projet. Et là, pour le coup, t'as pas l'impression que c'est l'importance capitale, en fait, derrière ce projet. Du coup, je m'interroge.
Bah, malheureusement, on revient à des problèmes que j'évoquais récemment dans le podcast où je parlais de mes questionnements par rapport à Kickstarter et au financement participatif en général. Le problème du financement participatif, c'est que comme ça ne s'est pas développé, en fait, parce que les gens ont plus confiance dans ce système-là, donc il y a de moins en moins de gens qui financent, et du coup, finalement, les campagnes Kickstarter, la plupart ne servent pas à financer les jeux. Parce que de toute façon, tu n'arriveras jamais avec un Kickstarter à financer en intégralité un projet. Il faudra toujours qu'il y ait un financement qui vienne de l'extérieur, que ce soit par la banque, par un éditeur, etc. Du coup, on peut s'interroger, tu vois, sur l'intérêt de la chose. Là, en plus, bon, le fait est que moi, quand je lis ce qu'ils promettent, tu vois, c'est beau, mais il y a mon détecteur de molineuserie qui s'active. Arnaque, arnaque, enfin, tu vois, c'est... quand t'as suivi les projets de Molineux pendant des années, ou même les projets de l'art british ou ce genre de choses, enfin, quand t'es un peu connaisseur de ce genre de trucs qui te promettent monts et merveilles, et au final, tu te retrouves avec... Alors certes, Fable, c'était pas mal, tu vois, mais bon, déjà, ils avaient un peu plus de moyens. Mais en plus, je rappelle Project Ego, hein, qui était le nom de code de Fable, tout ce qui était promis, hein, la végétation qui va pousser, enfin, des trucs incroyables qui étaient promis. On n'a jamais vu le poil de cul de ça dans Fable. Fable, au final, c'était un action RPG sympathique, mais ça avait pas révolutionné le genre comme ça l'avait promis, quoi, tu vois. Donc moi, je suis un peu méfiant quand on commence à me faire ce genre de promesses. Ce qui est dommage, parce que sinon, à part ça, moi, le jeu, je le trouve super joli, et je pense que, déjà, rien qu'en tant que Zelda-like open world, ce qui est déjà un énorme boulot,
hein, ouais.
Et surtout quand tu passes après Breath of the Wild, qui doit être l'open world le plus polish que j'ai jamais vu, tu vois. Enfin, disons que le niveau d'exigence a augmenté suite à ce jeu-là. C'est déjà difficile, tu vois, de faire un open world qui soit bien fini. Alors, si en plus tu commences à rajouter derrière des systèmes écologiques, etc., d'accord, c'est intéressant, mais voilà.
C'est ambitieux.
Surtout qu'en plus, il n'y a pas que ça. Hein. Au niveau des combats, ils promettent une feature qui déjà me paraît un peu plus réaliste, mais qui est déjà difficile à réaliser. C'est le fait que les ennemis s'adaptent à tes réactions, ton style de combat. C'est-à-dire que si t'es agressif, ils vont se mettre en mode défensif. Et inversement, si t'es en mode défensif, ils vont essayer d'être beaucoup plus violents, etc., de t'encercler, ce genre de choses, tu vois. Alors si en plus tu rajoutes tout un système écologique par-dessus, que tu rajoutes une histoire, alors certes linéaire, mais où les protagonistes et les lieux pourront différer selon les joueurs, t'auras un certain nombre d'événements qui devront se produire, un peu comme tu sais dans Shadow of Mordor, quand t'as des events qui se déclenchent, ça sera pas toujours le même perso qui déclenchera l'event, et ça sera pas toujours dans le même lieu, tu vois. Déjà, ce genre de feature que tu n'as vu que dans Shadow of Mordor,
c'est vrai.
Ils veulent les faire dans leur jeu, tu vois, ils demandent que 100 000 balles. Bon. Voilà, vous l'aurez compris. Sur le papier, c'est magnifique, voilà. Mais bon, je reste dubitatif. Donc, ils demandent 100 000 euros, ils sont à 30 000. Je recommande aux gens de rester méfiants. Comme le dit Mordren, j'ai pas vraiment l'impression qu'ils aient besoin de cet argent, en fait. Je pense que ce genre de projet, ça devrait être financé par un éditeur. En tout cas, quand c'est ambitieux à ce point. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils aillent voir un éditeur et qu'ils convainquent un éditeur de les financer, parce que là, avec 100 000 balles, tu vas faire quoi? C'est une campagne marketing, en fait, tu vois, enfin...
Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que ces 100 000 balles, c'est en gros un éditeur qui leur a dit « Ouais, non, montrez-nous d'abord qu'il y a une base sur laquelle on peut travailler, une base de fans, de communauté, sur lesquelles on pourra compter pour vendre le jeu Day One, entre guillemets. Et ensuite, on vous donnera le financement nécessaire. » J'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait, ce Kickstarter.
Totalement. Bon, voilà. On va passer à la suite, mon cher Mordren. Et justement, vous voyez comme ce podcast est organisé, c'est fabuleux. On parlait de Middle-Earth Shadow of Mordor. Bah écoutez, on va parler de sa suite. Middle-Earth Shadow of War. Un jeu auquel tu avais joué, mon cher Mordren, n'est-ce pas?
J'avais joué à Shadow of Mordor,
Un jeu, n'est-ce pas, qui avait une feature, qui est le système de Nemesis.
Ouais.
De ce que je me souviens, en gros, tu te baladais dans le Mordor, t'avais l'armée de Sauron, t'avais ton armée. Tu devais infiltrer tes agents dans l'armée de Sauron, les faire grimper les échelons, etc. Et à la fin, c'était le clash ultime entre ton armée et celle de Sauron. avec en plus des bad guys, on va dire, avec qui tu avais un historique.
Ouais.
C'est-à-dire que, par exemple, si tu en blessais un, imaginons tu blessais à l'œil, il garderait sa cicatrice, il reviendrait un jour pour se venger, tu vois.
Et il se souvient de toi, ouais.
Bon, ce qui, des fois, donnait des situations ridicules, parce que le mec, il revenait 10 fois dans la partie, et tu disais, mec, tu vas crever à un moment donné, ou... Voilà. Et donc là, on a la suite qui arrive, et Mordrain, donc, qu'est-ce qu'ils nous promettent pour cette suite?
Oh là, ils nous promettent monts et merveilles. Hein. C'est l'exemple typique de la suite où tout est plus grand, tout est plus fort, tout est plus puissant. Donc on nous promet bien sûr le retour de Talion le Rôdeur et de l'elfe Celebrimbor, avec donc une première vidéo de gameplay, une longue vidéo de gameplay, hein, quand même 16 minutes, ce qui n'est pas rien. Et puis dans la foulée, il y a le vice-président en charge du créatif de Monolith qui a donné une interview à un certain nombre de médias spécialisés et qui précise encore une fois l'idée derrière ce jeu et cette suite. Alors bon, je vais vous faire un petit mix de tout ce qui ressort de cette vidéo et de cette interview.
Je vous mettrai le lien vers l'interview de GameSpot et vers la vidéo, comme ça vous pourrez voir de vous-même également.
Donc c'est un monsieur qui s'appelle Michael de Plater, voilà. Alors bon, ce qu'on nous a montré en fait, c'est la phase de combat et ce qu'il considère comme des espèces de jalons dans l'aventure, c'est les attaques de forteresse. Le jeu restera quand même un open world où il y aura une dimension exploration et action, mais là on nous a montré que la dimension très action et la dimension très combat ultime. Quand vous aurez vraiment bien appréhendé une région, en fait, vous avez une forteresse qui est le lieu que vous devez capturer de cette région. Et donc la faire vôtre. Et du coup, forcément, c'est un peu déstabilisant parce qu'on a l'impression que en fait c'est des levels.
Pour tout te dire, moi quand j'ai vu la vidéo, j'avais pas du tout regardé ce qui avait été dit sur le jeu, etc.
Ouais.
Au départ, je me suis dit ah mais ils ont laissé tomber la structure open world pour faire des niveaux en fait.
Ouais. Et ça, il l'a bien reconfirmé dans les interviews. La dimension exploration est toujours dans le jeu et c'est toujours un open world d'action. Il a pas mal insisté là-dessus, mais voilà, ils se sont concentrés sur l'aspect action et Nemesis dans cette vidéo de présentation. À savoir que donc du coup, ces forteresses, chaque forteresse a plusieurs chefs de guerre et au-dessus d'eux un overlord qui sera unique à chaque joueur. À savoir aussi que les forteresses elles aussi sont uniques entre guillemets, c'est un peu le mot qui revient tout le temps dans la bouche du directeur créatif.
Unique à moitié, hein. C'est-à-dire que le level design, si vous voulez, est fixe, là où sont placés les murs, comment est construite la forteresse, ça c'est fixe, mais par contre ce qui est entre guillemets procédural, c'est le fait que comme t'as un boss, si tu veux, qui a des affinités du point de vue guerrier, on va dire, il va installer certaines défenses dans cette forteresse, il va faire des murs plus hauts, il va installer des pièges bien spécifiques, ce genre de choses. Donc, en gros, t'as des forteresses qui sont construites d'une manière fixe. Comme ça, t'as quand même un level design qui est pas dégueulasse et qui est intéressant. Et l'idée derrière, c'est qu'on rajoute la petite touche qui va faire qu'à chaque partie, ça sera différent.
Ouais.
C'est-à-dire que t'auras des ennemis différents, des pièges différents, ce genre de choses, quoi.
Voilà. Donc, typiquement, le grand chef de guerre, il a une affinité avec les armes incendiaires, par exemple. Lui, il va construire des défenses qui sont à base de produits inflammables pour défoncer ton armée. Et donc il va falloir bien sûr s'adapter dans la façon de se battre contre lui. Une fois que vous avez réussi donc à battre chacun des chefs de guerre puis l'Overlord, la forteresse est considérée comme conquise et va générer des ressources pour vous, du loot, mais aussi ça va devenir votre base personnelle à la tête de laquelle vous allez mettre un de vos propres chefs de guerre et qui du coup va imprimer ses propres caractéristiques à cette base. Donc typiquement, vous avez un chef de guerre qui lui est un nécromancien, il va proposer donc cette spécialisation à toute la région et apporter du coup ses attributs à la forteresse et imprimer aussi aux gardes de la région des attributs spécifiques. Au-delà de ça, vous allez aussi devoir défendre vos forteresses une fois que vous les aurez capturées. Le système de Nemesis va aussi se calquer sur nos suivants, donc c'est tous les chefs de guerre qu'on va intégrer à notre propre armée, puisque ces personnages-là, eux aussi, vont avoir des moments d'intrigue spécifiques avec notre personnage. Donc typiquement,
ça sera ton crew un peu, tu vois.
Ouais, c'est un peu ça. Donc nos suivants, ils peuvent aussi créer leur propre histoire, c'est-à-dire lier une amitié avec Talion, ou entre eux, ou le trahir, et ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Typiquement, un de vos chefs de guerre peut être capturé. On peut prévoir son exécution à tel endroit, à telle heure. Vous, vous avez le choix soit d'y aller pour le sauver, auquel cas votre lien avec lui va être forcé, ou vous pouvez très bien partir du principe que vous le laissez tomber, et lui, il va se sentir trahi. Donc, si jamais il en réchappe de cette exécution, il pourrait très bien avoir envie de se venger. Autre chose, on peut assigner un de nos chefs comme notre propre garde du corps, et à ce moment-là, c'est nous qui l'appelons pour venir nous aider en combat, c'est ce qu'on voit à la fin de la vidéo, ou un chef de guerre qui est pas loin de vous, au combat, il va décider de son propre chef de venir vous aider. Et ça, c'est quelque chose qui est aléatoire.
D'accord. Et il y a aussi un truc sympa, c'est que tu peux infiltrer un de tes chefs de guerre dans la forteresse ennemie. En fonction du chef de guerre qu'il y aura dans cette forteresse, il pourra y avoir des distensions à l'intérieur. Ouais. Et si les distensions sont suffisamment fortes, tu pourras infiltrer un ou plusieurs chefs de guerre pour qu'ils foutent le boxon si tu veux, et la prise de forteresse sera d'autant plus facilitée.
C'est ça. En fait, ils ont vraiment pris conscience de la répétitivité du premier jeu. Et ils ont pris des mesures, en fait, pour faire en sorte que ça change un petit peu de ce point de vue-là. Donc, bien sûr, leur gros feature, c'est le Nemesis qu'ils veulent essayer d'amener plus loin. Mais il y a aussi le fait que chacune des régions a ses caractéristiques spécifiques. Ils partent du principe qu'il y a différentes tribus d'orques qui doivent cohabiter à certains endroits. Et certaines de ces tribus d'orques ne peuvent pas se piffer. Et du coup, ça crée des dissensions, comme tu le disais. Et dans une certaine forteresse, tu peux profiter de ça pour créer soit une mutinerie, soit implanter un espion à l'intérieur qui va pouvoir t'aider au moment où toi, tu donnes ton assaut. Et donc du coup, différentes tribus d'orques impliquent aussi différentes ambiances selon la tribu qui règne à un endroit. Il a donné deux exemples spécifiques, je me rappelle plus de l'autre, mais il y en a un, c'est la tribu machine ou je ne sais quoi, et en gros, si tu vas dans une forteresse qui est tenue par cette tribu-là, va y avoir beaucoup plus d'esclaves, va y avoir beaucoup plus de choses un peu mécaniques. Ça va donner une dimension un peu plus particulière à cette forteresse que, bah, du coup, il n'y aura pas forcément chez un autre joueur. Je reviens sur le Nemesis parce que je l'ai traité du côté des suivants, mais évidemment, du côté des rivaux, ça va être important. Il y a un certain nombre de joueurs qui ont été trop forts, entre guillemets, pour Shadow of Mordor et qui n'ont pas vraiment vécu tout ce qui est histoire avec un Nemesis, c'est-à-dire que, bon, bah, si tu ne fais que les tuer tous, au bout d'un moment, en fait, bah, t'auras pas vraiment l'occasion de nouer un lien avec ces personnages-là, puisque bon, bah, ils seront tous crevés. Du coup, ils ont fait en sorte que y ait certains Némésis qui puissent s'échapper, ou que même un Némésis puisse tromper la mort.
Ah ah ah, je croyais que j'étais mort, tintin.
Donc bon, ça, c'est forcément, ça va apporter un élément de surprise, évidemment. Bon, faut faire en sorte que ça soit pas trop souvent le cas, hein, parce que sinon,
Ça va faire un peu bénil, quoi, si tu veux. ça sera un peu ridicule, quoi.
C'est ça. Mais au-delà de ça, donc évidemment, ils ont ajouté de nombreux nouveaux event par rapport au Nemesis, mais aussi de nouvelles caractéristiques qui seront très importantes, on l'a vu, pour les forteresses, mais aussi pour votre capacité à vous battre contre eux. Alors, comme d'habitude, on fait de plus en plus n'importe quoi avec le lore Le Seigneur des Anneaux, hein.
Ah, ça, c'est mon gros problème avec Shadow of Mordor, ce sera mon gros problème avec celui-là, c'est...
Ouais.
Tu vois la vidéo, le fan du Seigneur des Anneaux qui est en moi souffre, hein, je peux te dire.
Parce qu'on le rappelle, le jeu est quand même censé se dérouler entre les événements du Hobbit et les événements du Seigneur des Anneaux.
Voilà. Et donc, là, t'as Sauron, il est ressuscité apparemment. Ah bon, j'étais pas au courant. Et Talion, enfin, les pouvoirs qu'il a, c'est...
Ouais.
Alors, ils ont quand même... il y a un truc que je vous ai souligné quand même, c'est que ils se sont dit, c'est vrai que Talion, il était un peu OP dans le premier, du coup, on va faire en sorte que des fois, t'as un ennemi qui puisse désactiver ses pouvoirs. Enfin, Talion, par rapport au lore, c'est une anomalie, ce truc. Déjà, dans Silmarion, tu vois, il serait OP.
Ouais.
Et le Silmarion, Dieu sait que c'est tous des bourrins là-dedans, quoi. Parce que je rappelle quand même que Sauron, c'est un nain de jardin, hein. Faut dire ce qui est. Quand t'as lu le Silmarion, tu perds un peu le peu de respect que tu avais pour lui, tu le perds, quoi. Je veux dire, il s'est fait déglinguer par une fille et son chien, quoi. Donc, déjà, en plus, la profusion de tribus orques, je te dis, mais d'où elles sortent?
Ouais.
C'est pas du tout cohérent avec le lore. Alors après, je sais bien qu'il faut pas faire son extrémiste fan de machin, mais là, si tu veux, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils aient choisi cette époque, en fait, quoi.
Ouais.
Alors en termes de timeline, ça colle pas du tout avec cette époque-là. On aurait pu prendre une autre époque, tu sais, où...
Ouais.
Le moment où t'as tous les anciens dieux qui sont partis, il reste plus que Sauron, mais il reste encore quelques êtres immortels qui sont un peu OP, quoi, tu vois. Par rapport au setting, je veux dire, le Seigneur des Anneaux, quand même, c'est une période... où il reste plus que les bras cassés, quoi, entre guillemets. Et là, t'as Talion qui débarque et tu fais, mais t'es pas censé exister à cette époque-là, quoi.
Du coup, en fait, c'est là que je disais que tout va plus loin et plus fort. Mmh. C'est-à-dire que là, clairement, t'as des combos. Tu vois Talion qui exécute un orc et en même temps, t'as le fantôme de l'elfe forgeron qui en exécute un autre. Quoi. Tu te dis, mais ok, ça va loin. Alors bien sûr, bon, ils se sont dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait pour aller encore plus loin? Ben tiens, on va prendre un drac. Oui, parce que bon, on va dire qu'il y en a qui traînaient encore. Et au-delà du lore, je suis pas du tout convaincu par le gameplay de ce truc. Mmh. Ça a l'air mou, ça a l'air inintéressant, je pense que clairement on va pouvoir s'en passer.
Et d'un point de vue gameplay, moi je sais pas pour toi, mais moi il y a un truc qui m'interroge. Au début de la vidéo, tu sais, ils te montrent une séquence où ils ont l'air de dire que, en fonction des chefs de guerre que tu vas avoir avec toi, la prise de forteresse sera plus ou moins facile parce que ces jets de guerre, ils ont des caractéristiques. Mmh. Genre, par exemple, t'as l'espèce de gros bourrin, tu vois, qui peut défoncer les portes. Ouais. T'as celui qui est avec ses bestioles, là, qui peut franchir les murs de feu, ce genre de choses. Sauf que, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que ça avait l'air vachement scripté. Alors, je sais que c'est pour une présentation, mais du coup, je me dis, en termes de gameplay, quelle influence je vais pouvoir avoir là-dessus, si tu veux. Et à quel point ça va être important d'avoir les bonnes unités pour finir la forteresse.
Ouais, et moi, au-delà de ça, j'aimerais aussi savoir si, du coup, si tu choisis pas les bons personnages, est-ce qu'il y a un moment, tu peux être juste arrêté devant une porte, en fait. Tu vois ? Bon, a priori, tu peux très bien le faire tout seul, hein, puisque ta lion peut grimper les murs comme il veut. Après, je reviens sur le combat, ce moment où il grimpe sur les murs et il arrive en haut du rempart, et j'ai eu un espèce de flash de quand je jouais au Beat'em All, le Seigneur des Anneaux, les deux tours, et le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, et j'ai fait, putain, s'ils réussissent à me refaire revivre ça, ça va être cool quand même. Mais ouais, je suis assez curieux de ce point de vue-là. Après, à savoir que nos suivants, eux aussi, vont avoir des niveaux, il va falloir les entraîner aussi. Donc tu peux typiquement dire à tel gars, va dans cette arène, et en gros, fais du leveling, quoi. À noter également que les runes qui étaient présentes dans le précédent jeu passent à la trappe et vont être remplacées par un système d'équipement, des équipements qui sont reçus pendant les missions, ou après s'être débarrassé d'orques importants dans notre intrigue perso. À savoir que ces équipements-là sont aussi signature de d'un certain nombre de choses qu'on a vues dans les films. Ils nous ont montré notamment une armure du Rohan. Bon, écoutez, pourquoi pas. Mais je pense que typiquement sur ce jeu-là, il va falloir se fermer un petit peu à nos penchants de fans du lore. Voilà, bon, je pense que j'ai à peu près terminé, mais il me reste quand même plusieurs questions par rapport à cette présentation. C'est quid de la partie exploration? J'ai quand même envie de savoir.
Est-ce qu'elle apportera vraiment quelque chose, surtout parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait cahier des charges, quoi. Parce que moi, très sincèrement, quand je te voyais jouer en stream à Shadow of Mordor, je me demandais, mais finalement, l'open world, qu'est-ce qu'il apporte, quoi? Tu vois. Et je suis toujours pas convaincu que l'open world apporte quoi que ce soit à ce jeu. Et je te demande si finalement ils auraient pas mieux fait d'avoir une expérience plus resserrée. Alors après, je sais que aujourd'hui, mon dieu, s'il y a pas un open world, c'est une catastrophe. Mais franchement, je suis toujours pas convaincu par l'intérêt de la partie exploration, quoi, on va dire.
Ben, en réalité, la partie exploration, elle n'était intéressante que dans les scripts de missions aléatoires, en fait. Quand d'un coup tu tombes sur un groupe d'orques et qu'il y a une mission qui se déclenche, un peu à la Red Dead Redemption, quoi. Mais en réalité, l'open world tel qu'il était n'était pas intéressant, puisque tu ne faisais que ramasser des feuilles, des trucs, tu vois, enfin, il y avait rien de véritablement intéressant, et puis tu ne découvrais pas non plus, parce que c'était quelque chose de très plat, où il y avait pas de passage secret, rien du tout, en fait. Donc c'était vraiment genre un truc qui était là pour le cahier des charges. Voilà, je suis curieux de savoir ce qu'ils en ont fait dans ce deuxième épisode. Pareil, il y avait aussi la problématique des décors, qui a priori ne devrait pas changer, puisque les décors dans Shadow of Mordor, bah, c'est typiquement les mêmes tout le temps. Est-ce que l'intrigue principale elle-même sera intéressante, puisque c'est quelque chose qui passait énormément à la trappe dans le jeu précédent? C'est des questions que je me pose. Et puis bon, la répétitivité, certes, il y a eu des nouveaux events qui ont été créés dans le système de Nemesis, mais est-ce que ça suffira? Je ne sais pas.
Bon, par contre, je vais quand même, encore une fois, saluer le fait que voilà un open world qui tente des choses.
Ouais.
Parce que, alors, certes, j'apprécie beaucoup ce que fait Zelda. C'est probablement l'open world le plus polish que j'ai jamais vu. Il a quelques petites choses bien à lui, mais pour le coup, Shadow of Mordor, c'est vraiment le jeu qui tente des trucs qu'on n'a pas vu avant et ouais. des trucs qui sont quand même assez balèzes à faire, quoi. Mm. Le, je veux dire, le système de Nemesis, c'est quand même un truc qui est vachement compliqué à équilibrer, je pense.
Oui.
Et le fait qu'il y ait ce risque à ce genre de choses, bah moi, je dis bravo.
Mm. Voilà. Et moi, je me rappelle à l'époque où j'avais fait le test, je disais que cette feature, on allait la revoir partout après, mais en fait, a priori, ça doit être tellement compliqué que personne veut s'y jeter,
en fait. On l'a jamais revu, en fait, hein, ben très concrètement. Et c'est très dommage, parce que moi, j'aimerais bien voir un jeu, pour le coup, tu vois, qui peut-être laisserait tomber toute la partie open world, et qui se concentrait vraiment sur cette idée d'interaction avec les PNJ, quoi, et comment créer de l'histoire à partir de ces interactions-là, quoi. Il y a un truc à creuser, là, et je trouve ça très dommage, que personne n'ait plus creusé que ça le sujet, quoi.
Ouais. Voilà. Bon, donc pour terminer, on rappelle que pour l'instant, la date de sortie est calée au 22 août 2017. Bon. On verra s'ils tiennent les délais, mais je suis pas sûr.
Voilà, voilà. Donc, on va maintenant, mon cher Morren, parler de Twitch.
Oui.
Ça faisait partie des sujets de la semaine dernière, n'est-ce pas, dans l'émission maudite que vous n'entendrez jamais. Parce que il se trouve que Twitch a annoncé récemment ses intentions vis-à-vis de la commercialisation de jeux, c'est-à-dire que bon, ils sont très clairement positionnés en tant que futurs concurrents de Steam, voilà. Twitch, je rappelle, c'est Amazon, hein, donc c'est un peu sérieux ce qu'il y a derrière, quoi, on va dire. Et le problème de Twitch, si tu veux, c'est que certes, ils ont une application, mais c'est pas une application qui est faite comme Steam, tu vois, pour jouer. Enfin, ça n'a pas été conçu pour. Donc, bah écoutez, le deuxième volet de l'annonce est arrivé cette semaine. Et ce deuxième volet, c'est quoi? C'est l'annonce d'une application. Comme d'habitude avec les grands groupes, hein, ils ont sorti le chéquier, tout simplement. Ils ont racheté une application qui s'appelle Curse, alors que moi, je connais pas du tout. Mais apparemment, donc c'est une application qui gère les appels audio et vidéo, la création de serveurs communautaires, le partage de screenshots, et dans un avenir proche, donc, avec la vente de jeux, ben justement, voilà, le téléchargement des jeux, la mise à jour automatique des mods, attention, en plus des jeux, la mise à jour des mods, ça c'est une feature que je trouve super cool, et tout ça sera en bêta le 16 mars, alors attention, le téléchargement de jeux, ce sera pas au lancement, mais tout le reste qu'on a annoncé là, ça sera là, le 16 mars. Que ça sera à terme mené à remplacer l'application Twitch actuelle.
Ouais.
Et dans tous les cas, moi je sais pas ce que t'en penses, Morden. Alors je suis partagé parce que d'un côté, je trouve ça super cool qu'on ait un concurrent sérieux à Steam. Il y a déjà énormément de joueurs qui sont inscrits sur Twitch. Donc il y a une base d'utilisateurs qui est déjà énorme et des utilisateurs qui sont intéressés par le sujet jeux vidéo, tu vois. Mais de l'autre, certes, c'est bien d'avoir un concurrent à Steam, mais par contre, avoir des hommes sandwich qui vont faire la pub pour les jeux sur Twitch, je sais pas si je suis très jouasse, quoi, entre guillemets.
Ouais, ça, c'est l'autre volet du des annonces de Twitch cette semaine. C'est le petit lien acheter ce jeu directement sous le player du streamer.
Et surtout, la commission que le streamer va recevoir.
Justement, à chaque transaction générée depuis son stream, le streamer touche 5% de la commission.
Voilà.
Alors c'est un phénomène qui est assez classique dans le milieu puisque des marques comme Amazon, Fnac, G2A, Goldol Games mettaient ça en place, que ça soit sur des sites internet ou des vidéos ou des streams. Mais là c'est la première fois que Twitch industrialise cette pratique et Twitch du coup montre clairement qu'il veut rester en position de suprématie sur le live streaming en donnant une nouvelle source de revenus aux streamers. C'est-à-dire que là où d'habitude on a 70% de com qui est donné à l'éditeur et 30% qui est donné au vendeur, on va avoir 70% de com pour l'éditeur ou le développeur, donc ça c'est standard, 25% pour Twitch, donc ils rognent 5% sur leur commission et ils donnent 5% du coup, les 5% restants, au streamer. Donc c'est quand même un signal assez fort pour la communauté qui fait vivre Twitch. Bien sûr, ça fait aussi les affaires de bon nombre d'éditeurs, dont Ubisoft, qui est un des premiers à avoir embarqué sur le bateau.
Ubisoft, toujours dans les bons plans.
C'est ça. Et puisque c'est à noter, hein, mais tous les éditeurs ne sont pas dans le programme non plus. C'est-à-dire que Valve et Riot, qui tiennent les jeux qui sont les plus vus sur Twitch, ne le sont pas, notamment.
Ça, c'est pas une surprise, parce que, bon, Valve, j'ai envie de dire, c'est le concurrent direct. Normal. Donc, et, mais Riot, ils ont un peu leur truc à eux, tu vois. Donc, ils ont pas besoin de Twitch, entre guillemets.
Exactement. Donc, ça fait les affaires de bon nombre d'éditeurs qui ont compris l'importance des live streams pour vendre leurs jeux. Puisque, clairement, il y a un certain nombre de jeux qui sont parfaits pour être vendus par du stream. Et des éditeurs comme Ubisoft ont exactement compris ce phénomène-là. Et du coup, ils vont pouvoir multiplier encore un peu plus les opérations sponsor. C'est-à-dire qu'ils vont trouver un streamer, ils vont dire « Bon, toi, tu fais effectivement beaucoup de vues sur Twitch. Je sais pas si t'avais prévu de jouer à mon jeu, mais bon, voilà, je te sponsorise un live. Et du coup, je sais que ce stream va faire vendre mon jeu. Puisque, en plus, il y aura ce petit lien « Acheter ce jeu » auquel ce Twitcher est en train de jouer. Et ça, je pense que c'est sûr qu'il va y avoir un bénéfice à se faire là-dessus pour les éditeurs, puisque, on le sait, les gens sur Internet sont flemmards. C'est-à-dire que ils vont voir un jeu, mais c'est quand même voilà la population qui va prendre ses petites mains, aller sur Google, chercher le nom du jeu. Déjà, ça, c'est beaucoup pour certains.
Et puis, lâcher un pucif aussi, quoi.
Bien sûr.
D'ailleurs, à propos d'exemple, je crois que t'en avais un, c'était celui de Ghost Recon Wildlands, ouais, où ça a été la folie, là.
Ouais.
Ils savent que la force de leur jeu, c'est les panoramas, etc. Du coup, ils ont fait en sorte que les gens puissent admirer le jeu.
Mais c'est-à-dire que Ubisoft, en plus, ils sont dans un endroit qui est assez compliqué sur cette fin d'année fiscale, puisque Ghost Recon Wildlands, il sort quand même en face de Zelda, et il sort en face de bientôt Mass Effect Andromeda. Et du coup...
Et pas que ça. C'est-à-dire que là, on parle des principaux, vous voyez, mais il y a une chier de jeux qui sort en mars, quand même, faut se le dire, quoi. C'est la folie, c'est on se croirait à Noël.
Et du coup, comment on fait quand on est un gros éditeur comme Ubisoft pour faire surnager un jeu qui est quand même un blockbuster dont on attend des résultats? Ben, il faut sortir le carnet de chèques et balancer des opérations sponsorisées. Et donc, on a eu un événement de stream qui était à la fois sur Twitch et à certains endroits aussi sur YouTube Gaming, de gros influenceurs, on va dire, on va les appeler comme ça, notamment Benzaï, Crane, le joueur du grenier, et qui d'un coup sont tous mis à streamer sur ce jeu-là dans une opération sponsorisée. Et ça, c'est des trucs qui marchent, on le sait. Et donc, si déjà il y avait eu ce petit bouton « acheter ce jeu » en dessous du player Twitch, je peux vous le garantir, c'était la fête pour Ubisoft, quoi. Maintenant, reste à savoir, ça c'est une question que je me pose en tant que Twitcher lambda, c'est-à-dire qui n'est pas affilié dans le programme partenaire de Twitch. Est-ce que un Twitcher lambda, non affilié à Twitch, aura lui aussi ce lien avec son consentement ou non en dessous du player quand il joue à un jeu? Si c'est le cas, c'est vraiment du pain béni pour les éditeurs qui vont pouvoir profiter des tendances.
C'est problématique aussi parce que peut-être que tu as certains Twitchers qui voudraient, par exemple, ne pas avoir ce genre de lien et juste dépendre de leur communauté, tu vois, pour avoir une certaine crédibilité aussi. Disons que quand t'essayes de proposer un certain type de contenu, moi, je suis pas convaincu que le côté homme sandwich, ça cartonne des masses, quoi. Enfin.
Ouais. Donc du coup, voilà, c'est une question que je me pose. Pour l'instant, c'est pas encore en place, donc il va falloir vérifier. Mais c'est une question importante à mon avis. À noter qu'il y a quand même un truc assez chiant, c'est quand vous achetez via Twitch, via ce petit player, vous êtes obligé de passer par l'application de bureau Twitch, ce qui paraît logique. Un, pour acheter les jeux. Deux, pour lancer les jeux. C'est-à-dire que les jeux vont être liés à vos comptes, que ça soit Uplay ou Steam. Mais il faudra quand même passer par cet intermédiaire-là, qui est l'application Twitch. Du coup, c'est quand même pas très ergonomique.
Alors, Uplay, on sait que... Je veux dire, c'est le cas sur Steam aussi. Quand tu lances un jeu Ubisoft, tu es obligé de lancer Uplay derrière. Mais par exemple, il y a plein de jeux peut-être qui ne se lanceront pas à partir de Steam. Tu vois.
Oui.
Et qui se lanceront directement à partir de l'application Twitch. À partir de là, c'est pas tellement différent de Steam, quoi, si tu veux. Bon, par contre, il y a le côté positif. Alors, même si, bon, tu sais, le fait que ce soit Amazon derrière, que, bon... Quand une grosse boîte comme ça a autant de pouvoir entre les mains, moi, ça me fait toujours un peu flipper, quoi, si tu veux. Mais par contre, le fait que t'aies un concurrent un peu sérieux, parce que je suis désolé, Origin, le Windows Store, Uplay, pour moi, ce ne sont pas des concurrents sérieux à Steam, voilà, c'est dit. GOG aussi, même si j'aime beaucoup GOG, je veux dire, leur position DRM Free fait que, malheureusement, ça sera jamais un service qui percera... auprès des gros éditeurs, à moins d'un changement de paradigme total, voilà. Mais là, le fait que t'aies un concurrent un peu sérieux qui puisse foutre un gros coup de pied au cul à Valve, bah écoute, moi je trouverais ça pas mal quand même, parce que je trouve que Valve, ces derniers temps, ben ils se laissent un peu aller, quoi. Ils font un peu ce qu'ils veulent, et ce serait bien qu'à un moment donné, on ait le choix aussi, tout simplement.
Donc, à voir ce que donne ce lancement en bêta le 16 mars.
Voilà, voilà. Donc, maintenant, mon cher Mandraine, on va parler des sujets qui fâchent, n'est-ce pas? Et on va parler de la Nintendo Switch. Nintendo Switch qui, au passage, se rend très bien pour le moment. Hein. On attendra de voir sur le long terme si ça continue, mais en tout cas, c'est très bien parti. Mais la Nintendo Switch, il y a eu un problème récemment avec Nintendo, c'est qu'on a découvert leur politique vis-à-vis des pixels morts. Alors, vous allez voir, quand on va sur le site officiel de Nintendo France, c'est pas très clair, mais sur la version anglaise, par contre, c'est beaucoup plus limpide. Alors, sur la version française du site officiel de Nintendo, qu'est-ce qu'on lit concernant leur politique concernant les pixels morts? Une particularité des écrans LCD est d'avoir certains points éclairés et d'autres non. Cela est normal et ne doit pas être considéré comme un dysfonctionnement. Bon, quand tu sais que ça parle de pixels morts, tu vois, tu comprends à peu près, mais bon, disons que t'arrives là, comme ça, tu sais pas trop quoi on te parle, en fait, hein. Alors que, en anglais, c'est très clair, hein. Small numbers of stuck or dead pixels are a characteristic of LCD screens. Voilà. Là, c'est clair, net, précis. On te dit qu'avoir des pixels morts, c'est normal. Donc, va te faire foutre. En gros. Voilà. Ouais. On me dira que oui, on peut retourner sa console sous 14 ouais. jours. Sauf que, je suis désolé, les pixels morts, ça peut arriver au bout d'un mois ou deux. Hein. Mm-hmm. Ça arrive que, au-delà du délai des 14 jours, tu te rends compte que ben t'as un pixel mort qui est apparu. Comme c'est pas couvert par la garantie du constructeur, tu fais quoi? Tu pries pour que le magasin accepte de la reprendre alors que le constructeur considère que c'est pas possible. Enfin. Ouais. Et je trouve que c'est d'autant plus problématique sur une console comme la Switch, qui pour moi est avant tout une console portable. Ce n'est pas une console de salon. C'est une excellente console portable, mais pour moi, c'est une console de salon mouif, quoi, on va dire. Et une console portable avec une telle politique sur les pixels morts, moi, ça me pose un problème. Voilà.
Mmh. Ouais, on est d'accord. Bah, pour le coup, enfin, il y a qu'à espérer que le celui qui vous l'a vendu accepte de vous la reprendre, quoi. Mais mmh. s'il joue au con, ils disent ouais non, mais Nintendo ils considèrent pas ça comme un défaut, donc va te faire mettre. ouais, mais bon, je suis sûr qu'il y en a qui vont vous dire ça, hein, d'ailleurs, si ça vous arrive. C'est dommage parce qu'en plus en 2004 ils avaient déjà eu ce problème-là avec la Nintendo DS et ils avaient fini par craquer, tu vois. Et de reprendre les consoles avec échange. Là, ils sont quand même un peu ouais, ils posent un peu les couilles sur la table, quoi.
Ils ont la confiance.
Ouais, ils ont un peu la confiance. Bon, écoute, et le problème, c'est que ce n'est pas le seul problème qu'a la Switch en ce moment.
Voilà. Parce que la Switch a un autre souci depuis son launch, c'est son fameux Joy-Con gauche. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mandraine ?
Ouais, bien sûr. Alors, le Joy-Con gauche, en fait, a un problème de réception, en fait, du signal. Enfin, d'envoi du signal Bluetooth jusqu'à la console, en fait. C'est-à-dire que quand vous tenez votre Joy-Con gauche donc avec la main et vous avez tendance à couvrir une bonne partie de l'avant et du côté gauche de la manette en elle-même et il y a un souci de construction là pour le coup c'est vraiment un souci de construction à l'intérieur.
C'est pas software malheureusement.
Ouais ouais, c'est dans le hardware, c'est-à-dire que l'antenne en fait est calée juste à côté d'un boîtier en acier et elle est à l'intérieur du circuit imprimé.
Contrairement au Joy-Con droit, où elle est placée à un endroit où ça pose aucun problème.
Où elle est placée à un endroit, ben, pour le coup, qui est un petit peu plus du côté de votre paume, ce qui pose pas problème d'interférence, puisque vous la couvrez pas de votre main.
Voilà.
Ce qui est vraiment problématique, puisque avec votre prise, vraiment, côté manette, sur le Joy-Con gauche, en fait, là, vous avez tendance, ben, justement, quand vous êtes sur les boutons Z, gauche, vous avez tendance à être de ce côté-là, et à être pile à l'endroit où se trouve l'antenne. Ce qui fait que, ben, on perd une partie du signal, en fonction de, ben, de l'endroit où vous êtes par rapport à la Switch. Si elle est plus ou moins éloignée de vous. D'ailleurs, un gars a confirmé ça en ouvrant carrément son Joy-Con gauche et son Joy-Con droit, d'ailleurs.
Je vous mettrai le lien vers la vidéo, comme d'habitude.
Et donc, en fait, il a fait une modification de l'antenne avec un fil qu'il a fait aller à un autre endroit, donc plutôt du côté paume. Et en fait, il a fait un test et son Joy-Con gauche, du coup, modifié, lui, fonctionne beaucoup mieux que le Joy-Con droit qui a... lui n'avait pas de problème. Donc voilà, alors le problème, c'est que bien sûr, clairement, c'est pas à la portée de tout le monde de faire ça.
Et puis surtout, ça fait sauter ta garantie, quoi.
Ça fait sauter ta garantie, et puis bon, clairement, tout le monde n'a pas envie de faire de la soudure, quoi. Bon, clairement, le problème a été identifié, donc c'est un problème côté hardware. Bon, tout le monde ne l'a pas, ce problème. mais c'est bon, c'est quand même un, un peu gênant.
Dwayne qui a craqué, hein, je dis au passage, ça fait partie des choses que vous auriez entendu la semaine dernière si l'émission était sortie. Donc Dwayne qui a fait un craquage complet, qui s'est pris une Switch, lui il a ce souci, mais il dit que bon, enfin en fait c'est surtout par rapport à la distance, si tu veux, de jeu. Ou là, ça pose un souci, quoi. Mais bon, après, si tu es suffisamment près de l'écran, ça marche. Hein. Mmh. Mais bon, c'est quand même problématique.
À savoir que Nintendo a également fait savoir que un certain nombre de produits qui utilisent le Bluetooth ou pas, d'ailleurs, peuvent entrer en interférence avec la communication entre les Joy-Con et la Switch. Et la liste est assez monstrueuse.
Tu vois ça, tu fais, mec, je vis dans un studio, je fais comment? Je jette mon micro-ondes par la fenêtre. C'est absurde, quoi.
D'ailleurs, si vous avez des aquariums, bon, voilà. A priori, c'est problématique aussi pour la communication de la Switch. Mais c'est pas voilà. Donc, un téléphone portable, une tablette, un ordinateur branché en Bluetooth, tout ça, ça peut poser des interférences avec votre Switch. Donc, faites attention à ça. Mais bon, encore une fois, si vous avez un appartement qui est petit, eh ben voilà.
Et puis, de toute façon, si vous y jouez en mode portable, ben, parce que j'insiste, pour moi, c'est une console portable, pour le coup, vous n'aurez pas ces problèmes-là. Bref, dans tous les cas, ben, la moindre de l'histoire, c'est quoi? C'est comme d'habitude, ben, ne jamais acheter une console à son lancement. Voilà. Mais c'est valable pour toutes les consoles, pour le coup. Hein. On sait toujours qu'il y a... Enfin, acheter une console à son lancement, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que la bibliothèque de jeux est pas extraordinaire, quelle que soit la console. Il y a des défauts de fabrication, des défauts de jeunesse. C'est très cher. Donc voilà, moi ma recommandation c'est quoi comme d'habitude? Ben écoutez, attendez au moins la fin de l'année, tu vois, que les premiers soucis de fabrication soient réglés sur les lignes de production, quoi. Au moins la fin de l'année. Ouais. Et personnellement, ce que je fais toujours avec les consoles portables de Nintendo, même si c'est pas sûr qu'il y en aura une, mais j'attendrai quand même la V2. Voilà.
Ouais.
Parce que je suis persuadé que c'est une console portable et qu'il en aura une de V2. Et voilà. Moi, j'attends de voir.
Ouais. Bah, de toute façon, voilà. Il est toujours plus rationnel d'attendre plusieurs mois avant d'acheter une console. Surtout que là, bon, effectivement, Zelda a l'air d'être un grand jeu. Mais, bon. Est-ce qu'il va vous tenir 8 mois? Je sais pas.
Ou tout dépend du rythme de jeu, j'ai envie de dire.
C'est ça.
Bon, mon cher Morane, je te propose que nous arrêtions là.
Faisons comme ça.
Voilà. Je tenais, avant de partir, à remercier Lateigne parmi nos éditeurs. Pourquoi je tenais à remercier? Parce qu'il se trouve que Dwayne n'est pas le seul à avoir fait un craquage récemment. Alors moi, j'ai pas craqué pour la Switch, hein, faut pas déconner non plus. C'est plutôt la PS4, moi, qui me tentait beaucoup. Hein, y a Persona qui arrive, tout ça. Et donc, grâce à Lateigne, j'ai économisé 50 balles sur une PS4 Slim, et c'est pas rien quand même. Donc, je le remercie beaucoup pour ce super bon plan, n'est-ce pas? Et je suis très content, voilà. Voilà, je suis fin prêt pour Persona 5. En plus, là, j'ai Nioh et Bloodborne qui m'attendent une fois que j'aurai fini Zelda. Bref, comme d'habitude, j'ai des jeux très très longs à faire et je sais pas comment je vais m'en sortir parce que derrière, il y a aussi Nier Automata. J'en peux plus, sauvez-moi, pitié, sauvez-moi. Allez, dans tous les cas, encore une fois, merci beaucoup, Lateigne. Rendez-vous la semaine prochaine, en espérant que ce numéro ne finisse pas dans les limbes comme le précédent, n'est-ce pas? Mais je ferai tout, quoi qu'il arrive, pour qu'il sorte. Allez, ciao à tous.
Salut tout le monde.